L'invité régional avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
Hervé Le Boutin, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur cette antenne. Vous êtes, on peut dire, une figure régionale, hein, journaliste, patron de presse, écrivain, éditeur aussi, je crois. Vous avez commis, on peut dire, un roman qui s'appelle Mai 68 chez Louis XVI. C'est paru il y a déjà quelques temps maintenant aux éditions Les Chantuseries, maison d'édition vendéenne, où il y a une grande part d'autobiographie, on peut dire.
Absolument.
Alors, quel était un peu le désir de faire aussi le point sur toutes ces années passées dans l'Ouest ?
Je m'étais promis, il y a longtemps, de raconter ce périple journalistique qui a été le mien pendant longtemps, puisque j'ai commencé à Nantes en 1974, et je l'ai continué jusqu'à aujourd'hui, pratiquement.
Oui.
Et je voulais dire, à travers ça, quelles étaient les passions qui avaient été les miennes, et quelles étaient les peurs aussi qui avaient été les miennes. Car le monde du journalisme, je n'y étais pas du tout préparé. Je n'avais jamais pensé l'être. Je voulais être avocat.
Vous êtes entré par effraction
à
Presse-Océan.
Hein, oui, ouais. Oui, je voulais être avocat. Et j'avais donc commencé la faculté de droit de Nantes. Et j'avais comme meilleur ami, puisqu'on n'en a qu'un, donc un garçon qui s'appelait Antoine, qui était nantais également, et qui s'est tué en voiture en voulant rejoindre le supérieur du séminaire français de Rome, qui était de passage en Normandie, durant l'été 1974, pour lui demander de l'accueillir au séminaire français de Rome, car à 20 ans, et dans les discussions qu'on avait eues, vous savez, Monterland a écrit Les Garçons, et Les Garçons s'appelaient Frérot, et nous on s'appelait Frérot dans notre adolescence. Il avait commencé, lui, à l'époque, à faire ce qu'on appelle la police de nuit, c'est-à-dire des jobs qui sont réservés aux étudiants, qui passent dans les salles de rédaction le soir pour rédiger les derniers petits faits divers ou les dernières petites informations. Et après sa mort, donc il est mort le 24 juillet 1974, l'un de ses frères est venu me chercher en me disant « Écoute, le journal cherche quelqu'un, tu étais l'ami d'Antoine, ils te connaissent, est-ce que tu veux reprendre la suite ?» Et j'ai repris la suite comme un défi que je me donnais à moi-même de découvrir ce monde-là, et c'est un monde que je ne connaissais pas. Et puis j'y ai pris goût. Et petit à petit, je suis devenu journaliste.
Alors, il y a beaucoup de cette aventure journalistique dans ce roman, Hervé Le Boutin. Ça commence quand même en mai 68, où vous êtes adolescent à l'époque, autour de la place Louis XVI. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que bon, c'est un peu vieux maintenant, mais
c'est un peu vieux, mais
il faut le re-raconter,
je
veux dire.
Ah, mais moi, je voulais le raconter parce que j'avais eu un mois de mai 68 étonnant. C'est-à-dire que j'avais pas lancé de pavé. Je n'avais cassé personne, j'avais tué personne.
Pourtant, Nantes était un peu à feu et à sang, non ?
Nantes était totalement à feu et à sang, puisque le préfet, j'en parle au début de mon livre, la nuit où les gauchistes, puisqu'il faut les appeler comme on les appelait à l'époque, les gauchistes, les maos, il y avait
ouais,
tout,
hein, ouais.
Ont attaqué la préfecture, je l'ai vu brûler. Alors j'avais 16 ans et demi, j'habitais le quartier.
Ça vous a marqué quand même ?
Oui, je ne l'avais pas dit à mes parents. Ouais. J'étais à Saint-Joseph-du-Loquidi, qui est une vieille institution catholique de la région nantaise, où j'étais très bien. Et ce soir-là, je suis resté tétanisé. C'est-à-dire que je n'avais pas de conscience politique. J'étais, comme tout le monde, plutôt pour l'ordre que pour le désordre. Et j'ai vu brûler cette préfecture. Le préfet avait reçu des consignes, ou avait plutôt proposé à Paris de faire tirer dans la foule, tellement il avait peur, j'en parle au début de mon roman. Et en fait, Paris lui avait interdit, et on l'a nommé immédiatement, on lui a dit, allez-vous réfugier à Châteaubriand, mais ne faites pas ça. Et je pense que Paris a eu raison. Et cette nuit-là m'a beaucoup marqué, et le lendemain, j'avais peu dormi, j'ai rencontré un de mes amis dans les rues de Nantes, dans le quartier Saint-Donatien, qui est le quartier historique de Nantes. Et en allant de Saint-Donatien vers la place Louis XVI, qui est au centre, où il y a la colonne Louis XVI, j'ai rencontré un de mes amis. Et il y a eu un dialogue assez curieux qui s'est passé entre nous, et était à la fois romantique et en même temps politique. Et je lui ai dit, la ville est à feu et à sang, c'est la guerre civile qui recommence. Ça me rappelle les barricades de 1848. Moi, je faisais référence déjà à Châteaubriand, mais c'était celle qui me marquait le plus, et je lui dis, il faut faire quelque chose. Et il me dit, bien écoute, viens avec moi, je vais t'emmener dans un cercle qui s'appelle le cercle Louis XVI, où il y a des gens qui réfléchissent justement à ce qu'il faudrait faire pour que ce ne soit pas la guerre civile. Et je lui ai dit ce mot totalement délirant, à 16 ans et demi, ben je lui ai dit, écoute, tu as raison, et quitte à mourir, autant mourir au pied de la statue de Louis XVI.
Mais un cercle, bon, beaucoup de chevalières, mais peu de chevaliers.
C'est ma phrase du début. Beaucoup d'amis ont beaucoup apprécié cet envoi, on appelle ça un envoi,
oui,
d'autres moins, et c'était la vérité. C'est-à-dire que j'étais dans un endroit qui n'était pas le mien sans être non plus complètement différent du mien, mais où il y avait énormément de chevaliers armoriés qui se promenaient un peu partout, et peu de chevaliers, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des gens qui étaient là par mondanité et non pas par conscience politique. On ne pouvait pas leur reprocher.
Vous avez quitté Presse Océan donc en 1997, hein, et c'est le moment où le groupe Dassault cherche à liquider un peu ses avoirs, entre guillemets, et dedans, dans cette escarcelle, il y a Presse Océan, donc racheté par le groupe Ouest France. Je ne sais pas si vous êtes gentil avec François-Régis Hutin, mais en tout cas, il faut lire à vos pages, hein, c'est assez trempé. Hein. Vous avez même essayé de racheter le journal, je crois.
Alors, cette histoire est une histoire absolument extraordinaire.
C'est un peu rocambolesque.
Totalement rocambolesque. On est allé avec quelques amis voir le groupe Dassault à Paris. Et j'avais un ancien dirigeant du Figaro Magazine qui était avec moi, ce qui était assez rigolo, qu'il l'avait quitté. Et puisque Dassault a racheté le Figaro en même temps. Et d'autres, et j'en parle dans le livre, pour leur dire, écoutez, le pluralisme, c'est beaucoup mieux que le monopole. Donc, laissez-nous envisager un rachat de Presse Océan. Évidemment, on n'avait pas le moindre fifrelin. Et on avait quand même des amis autour de nous qui étaient prêts à faire ce geste. Moi, j'avais des amis au Télégramme, j'avais des amis un peu ailleurs qui avaient dit, si l'occasion se présente, on peut venir au secours de ce quotidien nantais. Et en fait, le groupe Dassault, dans sa logique capitalistique, nous a dit une seule chose, vous mettez combien? Et en fait, le seul argument que l'on aurait pu donner, c'était de mettre plus cher que le groupe Ouest France, ce qu'on ne pouvait pas faire.
Après, ça a été effectivement la logique, hein, c'est-à-dire des rédactions qui ferment, des journaux qui ferment, comme Vendée Matin.
Et ça continue, puisqu'ils ont fermé des rédactions. Maintenant, ce qui reste de Presse Océan, c'est-à-dire un tout petit journal vivant à 20 000 exemplaires, je vous rappelle que Presse Océan à l'époque, c'était 100 000, hein, 20 000 aujourd'hui, est réduit à la portion congrue. Moi, je vis à Nantes, donc je le vois tous les jours. Je pense qu'un jour, Presse Océan fermera également.
Mais vous avez justement, vous êtes battu pour cette presse, alors aussi dans la presse magazine, avec le Nouvel Ouest, etc. C'est aussi une aventure qui s'est terminée. Vous jetez forcément un regard sur ça, avec toute la mutation de la presse.
Je pense que la mondialisation et l'outil Internet lié, et donc l'expérience digitale, qui peut avoir des côtés très intéressants, même en radio, ne facilite plus l'achat d'un quotidien. Ça, j'en suis absolument persuadé.
Et c'est l'acte d'achat qui est.
Voilà,
et quand vous voyez que les
quotidiens, je ne veux pas me tromper, mais je crois que le Monde est à 3 euros maintenant chaque jour, et les quotidiens régionaux sont à 1 ou 2 euros, je ne sais plus, parce que je n'en achète pas beaucoup. Quand vous avez une tablette, vous pouvez aller voir les gros titres, vous pouvez aller. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer qui ne vont pas favoriser l'essor de la presse écrite. Et je pense que le combat que j'ai mené, c'était un peu un combat perdu d'avance. Mais en tout cas, dans la vie, c'est comme pour la foi. Il faut aller jusqu'au bout de son raisonnement. On n'a pas le droit, à un moment donné, de dire non, je ne parle plus parce que ça n'intéresse plus personne. Je crois que tous les combats peuvent être menés si on a derrière une logique intellectuelle qui permet d'affirmer des choses et de combattre certaines idées reçues. Mais je suis très inquiet pour l'avenir des quotidiens pluralistes. Je pense que le dernier qui est extraordinaire, c'est le Télégramme qui résiste dans son Finistère de naissance. Mais un jour ou l'autre, lui aussi, c'est une famille, les Couturier, qui sont des gens assez exceptionnels, qui continuent à se battre. Il n'y a pas d'autres capitaux que les capitaux familiaux. Mais un jour ou l'autre, tout ça risque de s'éteindre.
Et vous parliez de monopole, justement, journalistique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas. Il y a le monopole journalistique, mais il y a l'uniformité des idées. Ça, c'est pas encore un peu plus dangereux, quelque part, que même dans des titres qui sont côte à côte, on peut avoir les mêmes choses, finalement?
On est dans une époque qui est assez curieuse de ce point de vue-là, parce qu'en mai 68, au moins, l'intérêt, c'est que les débats frontaux étaient débats idéologiquement, intellectuellement très nourris et avec des contrastes qui étaient extraordinaires. Aujourd'hui, la pensée unique, qui est devenue aussi une pensée inique, règne un peu en maître. Et le macronisme, excusez-moi de faire un tout petit peu de politique, mais c'est pas un jugement de valeur, mais montre bien que le en même temps voudrait faire passer toutes les choses égales. C'est l'aboutissement du relativisme qui avait commencé en mai 68. Donc je pense qu'aujourd'hui, le combat intellectuel n'est pas perdu. Pour qu'il y ait un combat intellectuel, il faut encore des grands penseurs. Et je m'amusais l'autre jour avec un de mes amis. Je comparais Raymond Aron et Pascal Praud, et je comparais le Figaro d'alors et CNews aujourd'hui. Alors vous me direz, il y a Zemmour, il y en a d'autres, mais on sent bien quand même qu'il y a un affadissement du débat intellectuel par le haut au profit de petits, minuscules débats par le bas.
Merci Hervé Le Boutin. On peut lire cette tranche de vie quand même à travers le roman que vous avez fait paraître aux éditions des Chantuseries qui s'appelle Mai 68 chez Louis XVI. Merci Hervé Le Boutin d'avoir été notre invité.
Merci Grégoire de m'avoir invité.